affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Pour cette première émission de l'année, nous avons encore la tête et peut-être le cœur remplis d'émotions et de jolies images rouges, celles bien sûr des habits du Père Noël, des décorations de Noël également, même s'ils sont partagés à ce moment avec le vert. Toujours est-il que nous avons cette couleur bien en tête, nous l'associons à ce Père Noël, peut-être aussi à Saint-Nicolas, au cadeau, au recueillement familial, à l'âtre tout crépitant qui a été allumé à cette occasion, aux flammes des bougies, même si elles peuvent être jaunes. Et nous allons, pour cette première émission, nous pencher justement sur cette couleur rouge, découvrir que, comme le vert exploré dans une précédente émission, c'est une couleur ambivalente, tour à tour aimée et détestée, représentant, selon les périodes historiques, des valeurs extrêmement positives ou effrayantes et négatives, représentant tantôt le pouvoir, tantôt la justice, tantôt la sédition, voire la révolution, tantôt l'Église, tantôt les diableries. Et pour nous guider dans cette exploration, nous avons l'immense joie d'accueillir et de retrouver Michel Pastoureau. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Vous êtes, je le rappelle, directeur d'études émérite à l'École pratique des hautes études. Vous êtes membre correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres et vous avez consacré une grande partie de vos recherches de spécialistes des couleurs, des images et de l'héraldique à un décryptage de notre réception à la fois symbolique, émotionnelle, politique et dans toutes leurs dimensions. Des couleurs qui justement font que la vie est plus belle. Et notamment, revenons donc sur cette période de Noël. Comment expliquer que le Père Noël ait systématiquement ses habits et ce bonnet maintenant rouge ?
Oui, il a toujours été rouge. Coca-Cola n'est absolument pour rien dans le rouge du Père Noël, contrairement à une idée qui est assez fortement répandue. Le Père Noël était déjà rouge avant Coca-Cola, puisqu'il est l'héritier de Saint-Nicolas, le saint, un des saints les plus populaires dans une large partie de l'Europe, qui apportait des cadeaux aux enfants, non pas le 25 décembre, mais le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas, personnage en grande partie légendaire, mais appuyé sur un fond historique, c'est un personnage rouge. Il est théoriquement évêque de Myre. Quelquefois, l'iconographie le transforme en cardinal. En tout cas, à partir du moment où on a des documents en couleur, c'est-à-dire dans les miniatures médiévales, à partir du XIIIe siècle, Saint-Nicolas est le plus souvent un homme vêtu de rouge. Et le Père Noël, qui est son descendant, son héritier, son épigone, reste un homme vêtu de rouge. Il n'y a pas besoin de chercher loin ailleurs les explications. On peut souligner d'ailleurs qu'en Europe occidentale, le rouge et la fête ont parti liés depuis des époques très très anciennes. Et malgré des soubresauts divers dans l'histoire de la couleur rouge, celle-ci est restée dans nos sociétés la couleur de la fête.
Vous avez dit que le rouge a une histoire évidemment bien plus ancienne. Et, le Père Noël est dans Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est dans les cardinaux des temps plus anciens qui eux-mêmes se revêtaient de pourpre. Mais bien entendu, l'histoire de la couleur rouge commence bien avant l'histoire de l'Église. Pouvez-vous nous éclairer sur ses origines très anciennes ? Vous qualifiez le rouge de couleur première.
Oui, c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée, à la fois en peinture et en teinture. En peinture, dès le paléolithique, dans les grottes, les plus anciennes traces artistiques du rouge sont datables de 33 000, 34 000 ans avant le temps présent. En teinture, c'est plus récent, il faut attendre le néolithique. On commence à teindre vers 4000, 5000, 5500 ans avant notre ère. Et c'est dans la gamme des rouges que l'homme a été performant le plus tôt, à la fois pour peindre et teindre efficacement et pour décliner cette couleur en différentes nuances de bonheur, ce qui lui donne une certaine avance sur toutes les autres couleurs, une primauté non seulement chronologique, mais aussi symbolique que le rouge a gardé pendant très longtemps. Ce qui me fait dire qu'en effet, c'est la première des couleurs. On peut même dire que c'est la couleur par excellence. Et en allant plus loin encore, dire que parler de couleur rouge, c'est presque un pléonasme. D'ailleurs, quand je demande à de jeunes enfants de nommer les couleurs qu'ils connaissent, ça commence toujours par le rouge. Il y a toujours cette primauté, alors que dans notre vie quotidienne, et même dans le monde des symboles, le rouge est depuis déjà quelque temps une couleur en recul par rapport au bleu, par exemple.
Alors l'un des âges d'or du rouge, c'est quand même plus proche de nous, en tout cas ce sont des époques qu'on se figure plus facilement, il y a l'Antiquité, et tout spécialement l'Antiquité romaine.
Oui. Dans l'Antiquité romaine, le rouge est associé à la guerre, c'est la couleur du dieu Mars, c'est la couleur des légions, et il est associé surtout au pouvoir sous la République, c'est la couleur du Sénat, et sous l'Empire, bien sûr, c'est la couleur du pouvoir impérial, par le biais de ce colorant merveilleux, la pourpre, qui permet d'obtenir des teintes de rouge très diversifiées, se situant entre le rouge proprement dit, le violet, le brun et même le noir. Alors la pourpre, c'est un coquillage, un mollusque qu'on trouve abondamment sur les rivages de la Méditerranée orientale, non pas un mollusque, mais plusieurs mollusques d'espèces différentes, donnant des qualités de pourpre différentes. Après des opérations assez complexes, on obtient une teinture. Il faut énormément de coquillages pour obtenir un peu de matière colorante, d'où l'extrême cherté de ce produit et son usage qui est réservé à des pratiques soit liées au pouvoir, soit au luxe. Sous l'Empire, seul l'empereur a le droit de porter une tenue entièrement teinte à la pourpre. Les autres, même les magistrats importants, n'ont droit qu'à des petits morceaux de pourpre sur leur toge. Et contrevenir à ce monopole, c'est parfois la peine de mort. On a quelques cas qui sont bien documentés sous l'Empire, notamment un fils du roi de Macédoine au 1er siècle de notre ère, qui s'était entièrement vêtu de pourpre. Eh bien, il a été mis à mort malgré l'alliance entre Rome et ce territoire de la Macédoine.
Oui, alors que si je comprends bien, c'était une sorte de dandy provocateur et rien de plus. Il n'envoyait pas un message politique de sédition.
Non, en effet, c'est une forme de provocation, c'est faire le joli cœur dans la Rome de l'époque d'Ovide et des poètes mondains, quelque chose comme cela. Donc il y a un monopole de la pourpre, il y a une industrie qui est très florissante dans différents endroits, surtout sous la Méditerranée orientale, et il y a des recettes qui se sont perdues, à Byzance d'abord et puis dans l'Occident médiéval ensuite. On ne sait plus teindre à la pourpre comme le faisaient les Romains, d'où l'utilisation d'ersatz pour essayer de retrouver ces procédés. La particularité des étoffes teintes avec de la pourpre, c'est que la couleur non seulement est très solide sur le tissu, mais elle est changeante, elle évolue plutôt en bien, alors que d'habitude, les tissus se décolorent. Là, au contraire, ils se renforcent avec la lumière, avec les effets du temps qui passe, et les nuances varient beaucoup, et c'est ce que l'on admire, ces nuances changeantes entre rouge, violet et noir.
Alors, ce que j'ai découvert en parcourant votre ouvrage, c'est qu'il y a une véritable industrie qui se développe autour de la couleur rouge, et notamment de la pourpre dont vous parlez, il en fallait des quantités industrielles, puisque extraire quand même de la couleur rouge d'un petit coquillage, si j'ai bien compris, des murs entiers étaient recouverts de cette teinte.
Alors, c'est une teinture, oui. On s'en sert pour l'étoffe, et on a des amoncellements de coquillages qui sont encore visibles sur certaines côtes de Méditerranée, par exemple dans la région de Tyr, on voit encore des fragments de coquillages attestant une officine ou des officines pratiquant l'extraction de la pourpre et la fabrication de la teinture. Et puis il y a un autre produit colorant très en vogue dans la Rome de la fin de la République et de l'Empire, c'est le cinabre, mais là c'est un pigment qu'on utilise pour la peinture murale. Les mines principales sont au cœur de l'Espagne, donc pour les acheminer vers Rome, il y a un long voyage, c'est un produit qui coûte très cher. Et à Pompéi, on en a retrouvé beaucoup, parce que quand le Vésuve explose, on vient de reconstruire une partie des villas à Pompéi, il y a eu un tremblement de terre assez récent, plusieurs tremblements de terre, et ce sont des nouveaux riches qui font reconstruire des villas, ils veulent ce qu'il y a de plus cher, de plus ostentatoire.
C'est un peu le Miami de l'époque.
Voilà, ou le bling-bling. Et donc, il faut des murs peints en rouge, et en rouge à base de cinabre, ça donne ces rouges que nous appelons pompéiens, qui sont des produits très beaux et très chers, mais aussi fortement poisons. C'est un sulfure de mercure, un sulfure naturel de mercure. Il vaut mieux pas se lécher les doigts une fois qu'on a posé la main sur le pigment.
Mais c'est pire que la peinture au plomb que l'on traque aujourd'hui dans nos maisons. Alors.
Oui, c'est ça. Dans l'histoire des colorants et des pigments, il y a des produits qui sont extrêmement dangereux, et notamment dans la gamme des rouges, le cinabre, le minium, plus tard le vermillon artificiel, un autre sulfure de mercure, mais obtenu par synthèse, celui-ci. Le vert de gris, également, dans la gamme des verts. C'est toujours dangereux, la couleur.
Il faut peut-être que vous nous précisiez quelque chose, parce que c'est dans notre imaginaire collectif, le monde antique, c'est plutôt un monde monochrome, très blanc. Vous nous détrompez au détour de quelques pages en nous expliquant qu'au contraire, c'est un monde extrêmement coloré.
Oui, c'est une idée qu'il faut abandonner, celle d'une Grèce antique et d'une Rome antique entièrement blanche. Au contraire, la polychromie est présente partout. L'idée est ancienne quand même, notamment d'une Grèce blanche. Dès la Rome antique, cette Grèce blanche se met en place parce que les Romains font copier la statuaire grecque, mais ne lui redonne plus ses couleurs. La statuaire grecque est entièrement polychrome, et ce qu'on voit à Rome collectionné, ce sont des copies qui, elles, sont en marbre blanc le plus souvent. Et c'est ça qu'on a retrouvé à la Renaissance et qui a donné l'idée d'une Rome et en amont d'une Grèce blanche. Ça s'accentue encore avec les enquêtes du XVIIIe siècle. Ce mythe se met en place et est très solide. Au début du XIXe siècle, quand de jeunes archéologues, de jeunes architectes font le voyage jusqu'en Grèce continentale, en Sicile, dans les îles de la mer Égée. Ils envoient des rapports aux grands savants de Berlin, de Londres, de Paris pour dire « mais tout est polychrome, l'architecture et la sculpture, il y a des traces partout de couleurs, on ne les croit pas. Il va falloir 4, 5, 6 générations pour que les érudits acceptent cette idée d'une polychromie omniprésente et d'une Grèce et d'une Rome antique très très colorées. »
Alors bien entendu, dans ce monde-là, les couleurs ne sont pas seulement choisies pour faire joli, mais parce qu'elles ont une charge symbolique forte. Dans la Rome antique, vous l'avez dit, il y a un lien entre le pouvoir, le Sénat, puis ensuite l'empereur vêtu de rouge. Au-delà du symbole de pouvoir, quelle est la façon dont cette couleur est reçue à cette époque ?
Oui, depuis fort longtemps, donc il y a un lien entre le rouge et le pouvoir, le rouge et la guerre, le rouge et la beauté. Les matrones romaines se mettent sur le visage énormément de rouge et de blanc, et c'est le contraste entre le blanc des joues et le rouge des pommettes et des lèvres qui fait la beauté. Certains poètes s'en moquent, Ovide d'abord, Martial ensuite, mais certaines femmes du paléolithique le faisaient déjà. On a retrouvé dans des grottes des récipients dans lesquels on fabriquait visiblement des cosmétiques dans la gamme des rouges, probablement pour s'embellir. Donc il y a un lien entre le rouge et le pouvoir, le rouge et la beauté, et probablement aussi le rouge et la prophylactie, éloigner les forces du mal par des surfaces rouges. Ça apparaît très tôt. On a trouvé des tombes du Paléolithique dans lesquelles le défunt est accompagné de pierres rouges, de blocs d'hématite, probablement de fleurs rouges qui ont disparu, des rouges funéraires qui devaient lui porter chance dans son voyage vers l'au-delà. Et ça dure très très longtemps, ce rouge porte-bonheur, au fond, ce rouge qui éloigne les mauvais esprits. Au début du XXe siècle, encore dans les campagnes de l'Europe occidentale, il n'était pas rare qu'on accroche au-dessus d'un berceau soit un ruban rouge, soit un morceau de corail rouge, une pierre rouge, quelque chose qui pouvait éloigner les forces du mal et protéger le jeune enfant.
Alors cette vision positive du rouge qui imprègne le monde antique, bien entendu, survit et se transmet au monde médiéval, au cours duquel vous nous dites que c'est la couleur préférée.
C'est la couleur préférée pendant une assez large partie du Moyen-Âge. Ça commence à décliner à partir du XIVe siècle, mais longtemps le rouge est associé non seulement au pouvoir, à la beauté, mais aussi à l'amour, encore que l'amour soit de toutes les couleurs. L'amour sage et fidèle dans la littérature des XIIe et XIIIe siècles, il est plutôt bleu. Quand il devient passion et même transgression, il est rouge. Quand il est prostitution, il est également rouge. Les plus anciens textes réglementaires soulignent que dans des villes italiennes et allemandes de la fin du XIIIe siècle, déjà les prostituées doivent porter une pièce de vêtement de couleur rouge. L'amour jeune, en revanche, l'amour naissant, c'est plutôt la couleur verte. Donc il y a une palette de l'amour qui est assez large.
Mais un petit peu comme la palette de l'amour dans les textes des pères de l'Église, les différentes sortes d'amour.
Oui, alors il y a l'amour christologique, l'amour divin, la caritas pour le latin médiéval, c'est rouge naturellement, mais il y a aussi donc l'amour débauché, l'amour érotique, la luxure est associée à la couleur rouge. Pour les pères de l'Église et pour leurs épigones, il y a une symbolique très forte des rouges et totalement ambivalente. Pour les pères, le rouge a deux référents, le feu et le sang. Et comme il y a un bon et un mauvais feu, et un bon et un mauvais sang, ça nous fait quatre pôles rouges autour desquels va s'organiser la symbolique chrétienne de cette couleur. Le bon rouge sang, c'est donc le sang du Christ, rédempteur, salvateur. Le mauvais rouge sang, c'est celui des crimes de sang, de la violence, de la colère, du meurtre, etc. Le bon rouge feu, c'est celui de l'Esprit Saint, qui est régénérateur, c'est le rouge de la Pentecôte, fête de l'Esprit Saint. Et puis le mauvais rouge feu, naturellement, c'est celui des flammes de l'enfer, qui, nous disent certains textes, brûle sans éclairer l'enfer, lieu de ténèbres, et à la fois noir et rouge. Donc ça fait quatre rouges, et au fond, toute la symbolique chrétienne et post-chrétienne même s'organise autour de ces quatre pôles.
On voit que c'est à un certain moment, c'est même devenu un enjeu commercial, puisque j'ai découvert avec étonnement et amusement qu'il y a eu des tentatives de la part d'industriels, mais ça c'est l'époque où le rouge commence à décliner, pour faire en sorte, au profit du bleu, pour faire en sorte que sur certains vitraux ou certaines représentations, le diable devienne bleu, parce que à force de voir des diablotins rouges, ça finissait par empêcher la diffusion de cette couleur. C'est un peu...
Oui,
donc, ce sont des opérations d'intelligence économique. Comme ça.
Oui, il y a des enjeux économiques aussi. Quand le bleu devient à la mode comme couleur de l'aristocratie, belle couleur, les teinturiers font des progrès considérables dans la gamme des bleus au XIIIe siècle. Les marchands du produit qui sert à teindre en rouge, les marchands de Garance, sont furieux de cette mode nouvelle des tons bleus. Et par deux fois, on a un document de la seconde moitié du XIIIe siècle qui nous apprend que à Strasbourg d'une part et à Beauvais de l'autre, la corporation des marchands de Garance demande à un maître verrier qui doit réaliser une verrière où on voit le diable dans l'histoire du moine Théophile, de faire le diable en bleu pour discréditer la mode nouvelle des tons bleus. Ça n'a pas suffi. Et à Strasbourg, par chance, on a conservé un fragment du vitrail et le contrat passé entre les marchands de Garance et le maître verrier. Donc, ridiculiser, diaboliser le bleu qui, à partir du XIIIe siècle, fait une forte concurrence au rouge, ça n'a pas suffi, donc.
Alors, il se trouve qu'en France, on a, semble-t-il, quand même un cas un peu particulier. C'est-à-dire que si j'ai bien compris, l'ensemble de l'aristocratie européenne est plutôt encore dans l'héritage antique d'association du rouge avec le pouvoir et avec, j'allais dire, ses privilèges, en tout cas avec son statut. En France, il y a eu un basculement. On est dans le bleu, justement.
Oui, donc le rouge est la couleur aristocratique pendant assez longtemps. Ça dure au moins jusqu'au XIIe et XIIIe siècle. On le voit bien, par exemple, dans les premières armoiries qui apparaissent dans la seconde moitié du XIIe siècle. Le rouge y est la couleur dominante, présente dans presque les trois quarts des armoiries. On le voit aussi dans les redevances féodales que doivent fournir les paysans, par exemple. En Europe orientale, ce sera ce qu'on appelle le kermès, c'est-à-dire des insectes, seule la femelle d'ailleurs a des vertus colorantes, qu'on récolte sur certaines espèces de chênes. Cet insecte est un parasite. Une fois séché, il peut être transformé en matière colorante de très grand prix, comme pour la pourpre. Il faut énormément d'insectes pour fournir un peu de matière colorante, mais qui donne des très très beaux rouges, écarlates, carmins. Et puis en Occident, plus simplement, on voit que telle ou telle communauté paysanne doit fournir au seigneur tant de coqs à très belles crêtes rouges. La crête du coq, d'ailleurs, dans la longue durée, passe pour le plus beau rouge qui existe.
Mais ça vient de l'Antiquité.
Ça vient de l'Antiquité. Les Romains ont un intérêt immense pour cet oiseau, le coq. Ils sont très bavards sur le coq.
Oui, moi, je pensais que c'était vraiment l'animal des Gaulois.
Alors, à Rome, le coq est très, très valorisé. Et on fait un jeu de mots, bien sûr, entre le nom latin du coq, Gallus, et le nom latin du Gaulois, Gallus également. C'est pour ça que pour les Romains, le coq est l'emblème de la Gaule. Mais pour que la Gaule, devenue la France, l'assume, il va falloir attendre quelques siècles quand même. Donc, au Moyen-Âge, c'est pendant longtemps la couleur de la noblesse, la belle couleur, la couleur de l'amour. Et puis, à partir de la fin du XIIe et du XIIIe siècle, le rouge a un rival inattendu qui a surgi assez soudainement, la couleur bleue, couleur devenue celle de la Vierge, la Reine des Cieux, puis celle du roi de France. Philippe Auguste est probablement le premier roi de France qui se soit vêtu en bleu, non pas au quotidien, mais parfois, mais surtout son petit-fils Saint-Louis aime le bleu, à la fois à titre personnel, mais aussi en tant que souverain. Il y voit une couleur à la fois royale et morale. Donc il s'habille de bleu, et si le roi de France s'habille de bleu, d'autres rois de la chrétienté vont faire pareil peu à peu. Et puis à l'intérieur du royaume de France, les grands barons, puis la moyenne noblesse imitent le roi. Donc le bleu devient couleur à la mode, devient rival du rouge. Et à partir des années 1300, on peut dire que rouge et bleu forment une sorte de couple de contraires. Idée qui nous est restée familière, ça ne nous choque pas si on nous dit le bleu c'est le contraire du rouge. Si on avait dit ça à Aristote, ça l'aurait fait rire aux larmes. Comment la première des couleurs pourrait avoir pour contraire une couleur qui compte à peine dans la Grèce antique, le bleu. Donc cette idée du couple bleu-rouge émerge au XIIIe siècle.
Oui, car ce que vous nous apprenez également, c'est que la valeur symbolique du rouge dépend. On est plutôt, ce qui compte sont plutôt les combinaisons de couleurs. Ça se voit notamment dans votre étude de l'héraldique. C'est-à-dire que le rouge en soi, comme vous l'avez dit, peut être tantôt maléfique, tantôt rédempteur. Mais en revanche, il y a des associations de couleurs qui, elles, sont extrêmement signifiantes et ne supportent pas la contestation. Elles sont totalement négatives, comme si j'ai bien compris, le rouge et le noir, ensemble, ça ne fonctionne pas.
Oui, il y a ça dépend des domaines concernés, mais d'un point de vue global pour la symbolique des couleurs, dossier sur lequel il existe une très mauvaise littérature, des mauvais livres du genre Le mystère des couleurs révélées, Le secret des couleurs, Qui êtes-vous par la couleur, comme j'ai vu une fois. Non, l'historien doit se méfier de cette littérature.
Les livres qui commencent par Les secrets d'eux, généralement, il faut se méfier.
Oui, oui, oui. Mais ce sont des succès de librairie. Donc, en soi, c'est un document qui doit nous faire réfléchir. Pourquoi nos livres érudits se vendent mal et cette littérature de pacotille se vend bien? Il y a là un vrai problème. Mais la symbolique des couleurs, c'est une notion dont on use et on abuse. Il est difficile d'en parler dans l'Antiquité parce que la couleur n'est pas encore une chose en soi, c'est-à-dire qu'elle est difficilement séparable de son support, de sa matérialité. Un Romain, par exemple, pourra dire j'aime les toches blanches, j'aime les fleurs rouges, je déteste les vêtements bleus des barbares, mais il aura du mal à dire j'aime le rouge, comme ça dans l'absolu. Et on le voit bien dans le vocabulaire, les mots qui désignent cette couleur et les autres couleurs sont presque toujours des adjectifs, pas des substantifs. Et c'est le Moyen-Âge qui crée ce concept de couleur, quel que soit le support, le rouge, le bleu, le vert, ça nous est familier à nous aujourd'hui en Occident, c'est pas encore partagé par l'ensemble des sociétés de la planète, il y a encore des cultures où séparer le rouge de sa matérialité, ça n'est pas possible. Pour nous, ça l'est depuis le Moyen-Âge, c'est le même mot qu'on va employer, qu'il s'agisse pour le rouge d'une fleur, d'une étoffe, d'un animal, d'un objet, et rouge pourra devenir substantif, alors qu'il n'était précédemment qu'adjectif. C'est un changement extrêmement, extrêmement important. Et pour ce qui est des significations, chaque couleur a des possibilités signifiantes, mais qui doivent se situer dans un contexte donné pour se mettre à l'œuvre, en quelque sorte. Donc, on ne peut pas parler trop longuement de la symbolique du rouge dans l'absolu. Il faut évidemment des contextes et des documents.
Alors, dans le contexte de l'héraldique et des tournois.
Voilà, dans le contexte de l'héraldique et du tournoi, le rouge va être la couleur de la guerre, ou du combat, disons, de l'amour. Il n'est pas rare au XIIIe siècle qu'un chevalier porte la manche de sa dame, soit sur son haume, soit au sommet de sa lance. Ça n'est pas une création de l'époque romantique, ça existe vraiment au XIIe et XIIIe siècle. Et le plus souvent, il s'agit d'une manche rouge, parce que la dame a mis sa plus belle robe, et la plus belle robe pendant longtemps, c'est une robe rouge. Il y a d'ailleurs peut-être un jeu de mots, les philologues ne sont pas d'accord, mais moi, j'ouvrirais volontiers une piste entre l'étymologie très complexe du mot robe, peut-être germanique, le verbe dérober, etc., mais peut-être aussi un lien avec l'adjectif latin ruber, rubeus, la robe étant par excellence le vêtement rouge. C'est à creuser. En tout cas, il y a au tournoi, dans les romans de chevalerie, une primauté du rouge pour la beauté, pour la guerre, pour l'amour, pour la courtoisie, souvent associée avec la couleur verte. Vert et rouge, qui ne sont pas pensés comme des, ni même perçus comme des contrastes violents au Moyen-Âge, mais plutôt comme presque du camailleux par rapport à la façon de classer les couleurs. Ce sont celles de la chevalerie et de la courtoisie, jusqu'à ce que le bleu émerge et vienne un peu perturber ce bel ordre courtois et chevaleresque.
En revanche, au même moment, et même jusqu'à beaucoup plus tard, il ne fait pas bon avoir des cheveux rouges, ou roux, comme on dit.
Oui, le roux, c'est au fond, pendant assez longtemps, les mauvais aspects de la couleur rouge, ou plutôt les mauvais aspects du rouge associés aux mauvais aspects du jaune. Et c'est déjà, à la fin de l'Antiquité romaine, une couleur dépréciée, par exemple rufus, dans la Rome impériale, c'est déjà une injure. Et puis au Moyen-Âge, ça s'accentue parce que l'iconographie d'abord, les textes ensuite, font de la pilosité rousse la couleur des menteurs, des traîtres, des hypocrites, des faussaires à un titre ou à un autre. Et par excellence, c'est la couleur de Judas, l'apôtre félon, souvent représenté dans les images à partir du XIIe siècle avec cheveux et barbe rousse, robe jaune, et à sa suite, les chevaliers félons, les traîtres et les mauvaises femmes de la Bible ont les cheveux rouges ou les cheveux roux. Cain, par exemple, qui tue Abel, et ça va durer assez longtemps, ce discrédit, cet ostracisme même envers la rousseur. C'est l'époque romantique, au fond, qui va revaloriser les roux, comme elle revalorise tous ceux qui ne sont pas comme les autres, et va se mettre en place le mythe de la femme rousse, qui n'est plus une sorcière ni une prostituée, mais la femme aimée, la femme attirante, la femme rite de passage, si je puis dire, pour le poète amoureux.
Ce qui est effroyable pour ces malheureux roux au cours de l'histoire, c'est que sous la Rome antique, le roux, c'est la brute germanique mal dégrossie. Ensuite, c'est le sournois trop malin comme le renard. C'est une sorte d'encyclopédie des préjugés au fil des temps.
Oui, les animaux à pelage roux sont des grands négatifs, le renard bien sûr, mais l'écureuil aussi, qui pour nous est un animal extrêmement sympathique, pour la culture médiévale est un animal abominable. On lui prête beaucoup de vices, il est paresseux, il dort une partie de l'année, il est lubrique parce qu'il passe son temps à se lutiner avec ses congénères, il est avaricieux parce qu'il stocke beaucoup plus de noisette qu'il n'a besoin, c'est un grand péché au Moyen-Âge, et puis il est stupide parce qu'il n'arrive pas à retrouver les noisettes qu'il a cachées, ça fait beaucoup pour le petit écureuil, et naturellement son poil roux est comme l'emblème de cette panoplie de vices. Faudra attendre l'époque moderne pour que l'écureuil se revalorise, au point que Buffon, d'ailleurs, dans son Histoire naturelle, lui consacre quelques pages pour dire qu'au fond, c'est le plus bel animal de la création.
Alors de la haine du roux, on va quand même passer à autre chose, c'est la haine du rouge, et peut-être même à la haine de quasiment toutes les couleurs, lors du grand basculement du rapport du monde occidental aux couleurs, qu'est le protestantisme ? Comment oui. Ça s'est-il produit ?
C'est un gros dossier, que celui des rapports entre la réforme protestante et la couleur, et à chaque fois que je consacre une monographie à une couleur, je ne peux pas éviter ce dossier. Il y a l'étape de la réforme, parce que les grands réformateurs protestants, dans leurs prêches et ailleurs, distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs qui ne le sont pas. Les couleurs honnêtes sont le blanc, le noir, le gris.
Il y a des couleurs qu'on oppose généralement à ce qu'on appelle couleur, d'ailleurs, dans le langage courant. C'est-à-dire que les couleurs honnêtes sont le noir et le blanc, et ses gammes.
Ouais, à cette époque, donc, ce sont encore des couleurs oui. À part entière. Le noir, le blanc, le gris, le brun et le bleu, qui est dans le bon groupe. Et puis, du côté des couleurs déshonnêtes, ce sont les couleurs trop vives, jugées trop voyantes. Le vert, le jaune et le rouge, surtout, qui se voit plus que n'importe quelle autre couleur, qui en outre est la couleur des papistes, c'est abominable. Donc il y a des textes très violents contre les couleurs trop vives, contre le rouge, à Genève par exemple, sous Calvin, et encore après, à la mort de Calvin. Être pris en habit rouge, ça peut être conduite directe au bûcher. Ça passe pour une violence faite aux autres, une offense faite à Dieu et un désordre social. Ça concerne donc non seulement un bon chrétien, mais un bon citoyen. Ne pas se vêtir de rouge, ni de couleurs trop voyantes. L'idée est toujours la même. Pour les protestants, mais pour le christianisme en général. Au paradis terrestre, Adam et Ève étaient nus. Ils ont fauté, ils ont désobéi à Dieu, on les a chassés du paradis, et à la sortie, en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Donc tout vêtement rappelle toujours le péché originel, et vouloir s'embellir par le vêtement, se faire remarquer par le vêtement, c'est un péché monstrueux.
Mais c'est vouloir échapper à la pénitence, en quelque sorte.
Oui, enfin, c'est encore désobéir à Dieu, au fond, et ça n'a l'air de rien, mais une partie de la population en Occident vit encore avec cette idée, sans en avoir pleinement conscience, mais contrairement à ce que pourraient faire croire nos magazines de mode, la majorité de la population cherche à ne pas se faire remarquer par le vêtement et non pas à se mettre en valeur. Et les marchands de vêtements le savent très bien, d'ailleurs, qui prévoient toujours deux gammes. Une gamme comme d'habitude, assez discrète, et puis la gamme à la mode, celle dont parlent les médias, mais qui représente moins d'un tiers des ventes. Donc il y a cette idée protestante à l'origine, reprise par la contre-réforme catholique, pour la vie quotidienne, et spécialement pour le vêtement, des couleurs discrètes, sobres, qui ne se voient pas trop. Et donc à partir du XVIe siècle, pour le vêtement masculin en tout cas, le vert, le jaune et surtout le rouge sont en recul, en grand recul, et c'est un phénomène de longue durée.
Cela dit, oui, de longue durée, mais qui vient de loin également. On l'associe au christianisme, mais on voit que dans la Rome antique, vous faites état aussi d'un certain nombre de moralistes.
Oui,
qui s'indigne des couleurs criardes dans les vêtements, de ces modes barbares.
Voilà, Pline, dans son Histoire naturelle, Pline, c'est un grand réactionnaire. Il est contre toutes les nouveautés, et spécialement les modes orientales et les modes germaniques qui arrivent à Rome au 1er siècle de notre ère, spécialement pour le vêtement féminin. Et il qualifie ces couleurs nouvelles de « colores floridi ». Ce n'est pas des couleurs fleuries, ce serait une mauvaise traduction, ce sont des couleurs frivoles qu'il dénonce naturellement. Il se range du côté des vieux Romains, entre guillemets. Il est hostile à toute nouveauté dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, ça n'empêche pas de chanter la gloire de Rome. Mais on a ça à toute époque, hein, cette hostilité aux nouveautés. Par exemple, au milieu du XIVe siècle, quand le vêtement change beaucoup, tant pour les hommes que pour les femmes, ça concerne les formes, le nombre de pièces du vêtement, le rapport au corps, beaucoup trop ajusté pour le vêtement masculin, selon les moralistes. Et puis les couleurs nouvelles et surtout les associations de couleurs, bichrome ou trichrome, sous forme de rayures ou de damier. Donc on retrouve ça à toute époque, c'est morale de la couleur. Se tient d'ailleurs en ce moment au musée des arts décoratifs, de l'autre côté de la Seine, une exposition qui s'appelle « Tenue correcte exigée », qui est presque entièrement consacrée à ces problèmes du vêtement lorsqu'il transgresse l'ordre moral ou l'ordre social.
C'est souvent le cas du rouge, d'ailleurs.
Oui, le rouge, alors...
Il attire l'œil, peut-être.
Il attire l'œil, il se voit mieux que d'autres couleurs. Il est resté présent dans le vêtement féminin assez abondamment. Il est beaucoup plus discret dans le vêtement masculin. Il n'est pas complètement absent, mais il y a des lieux et des circonstances pour se faire. Un homme en rouge sur une plage ou sur une piste de ski ou un terrain de sport, ça ne choque absolument pas. Dans la vie quotidienne et le spectacle de la rue, ça n'est jamais entièrement rouge. C'est toujours un élément, une pièce, un accessoire. Et puis, dans une circonstance un peu solennelle, si ça n'est pas un magistrat en séance plénière, ça fait un écart par rapport à nos habitudes. Sous la coupole, on ne s'habille pas en rouge.
Certes. Cela dit, vous parlez d'un homme, mais une femme qui se promènerait aujourd'hui avec une robe intégralement rouge à Paris, ce jour, se ferait plus remarquer que si elle adoptait le code vestimentaire protestant, pour revenir à nos propos précédents. Et dans cette connotation quand même un petit peu aussi sexuelle du rouge, a mené d'ailleurs certains analystes à totalement s'égarer. Vous faites une sorte d'exégèse de la façon dont a été reçue l'histoire du petit chaperon rouge, et qui est assez éclairante à ce sujet, sur la façon dont on peut même surinvestir le rouge de connotations qui n'y sont peut-être pas à cette époque.
Oui, pourquoi rouge ? Et dans les versions anciennes du conte, bien avant celle de Perrault à la fin du XVIIe siècle, le rouge est déjà présent. C'est un conte qui, par écrit, émerge au lendemain de l'an 1000 dans la région de Lille, sous le titre « La petite robe rouge ». Une fillette est épargnée par des louveteaux, protégée par son vêtement rouge. Puis l'histoire se déforme, prend différentes versions. La plus classique, celle de Perrault, finit très mal. Le loup dévore la grand-mère et la petite fille. Plus tard, au début du XIXe siècle, dans celle des frères Grimm, ça finit mieux, puisqu'il y a une rallonge et un gentil chasseur tue le méchant loup et fait sortir du ventre de l'animal et la grand-mère et la petite fille. Mais pourquoi rouge ? Et on peut avancer un certain nombre d'hypothèses. Certaines assez banales pour un historien, par exemple l'habitude qu'on a eue dans les campagnes d'Occident pendant très longtemps de vêtir les enfants partiellement ou totalement de rouge, pour les repérer, pour les surveiller, pour éloigner les forces du mal aussi. On peut souligner également que ce jour-là, la petite fille va voir sa grand-mère, donc c'est un jour de fête, donc elle met son plus beau vêtement, et dans la teinturerie de village, un vêtement beau, c'est toujours un vêtement rouge, d'où cette idée du chaperon rouge. Certaines versions anciennes précisent que l'histoire soit se passe le jour de la Pentecôte, soit que la petite fille est née le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire un jour de fête entièrement voué du point de vue liturgique à la couleur rouge. Ça peut expliquer aussi ce choix de couleur. D'une manière banale et décevante, on peut dire aussi que le rouge annonce le sang qui va couler. C'est une couleur à fonctionnalité retardée, mais ça n'est pas très pertinent. De même, je suis très méfiant devant les explications psychanalytiques liées aux travaux de Bettelheim et à quelques autres qui soulignent que, au fond, la petite fille est pubère ou prépubère et qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup. Donc, c'est le rouge de la sexualité qui est là à l'œuvre. C'est totalement anachronique parce que la psychanalyse, c'est un outil de notre temps pour essayer de comprendre notre temps. Mais projeté dans le passé, ça devient très, très fragile, d'autant que ce ne sont jamais les individus concernés qui parlent directement d'eux-mêmes, mais d'autres qui parlent à leur place. Donc on peut faire une psychanalyse du général de Gaulle, de Napoléon c'est déjà plus difficile, et de Charlemagne ou de Néron, ça devient impossible. Donc pour le petit chaperon rouge, je crois que le rouge de la sexualité est à rejeter, parce que dans les sociétés anciennes, qu'on soit au Moyen-Âge ou au XVIIe siècle, l'amour naissant, les amours enfantines, comme dirait le poète, ça se passe en vers. Donc si la sexualité était... présente dans la couleur, ce serait le petit chaperon vert et pas le petit chaperon rouge. Donc je crois qu'il faut y renoncer. Moi j'ai avancé une autre hypothèse, à savoir ne pas envisager le rouge tout seul, mais l'associer au blanc du petit pot de beurre et au noir du loup ou de la grand-mère. Ça nous fait une triade rouge, blanc, noir qu'on retrouve dans d'autres contes, par exemple dans Blanche-Neige, où une jeune fille blanche comme la neige reçoit une pomme rouge empoisonnée d'une méchante femme, sa marâtre, vêtue de noir, ou dans une fable comme le corbeau et le renard, où un oiseau noir lâche un fromage blanc qu'un animal rouge récupère au sol. Donc on a une triade de couleurs qui circulent comme ça entre trois pôles. Je crois que c'est une assez bonne piste pour comprendre le jeu des couleurs dans le petit chaperon rouge.
Alors justement, comment s'articule-t-elle cette triade ? Parce qu'elle est... J'allais dire, c'est le fil rouge, c'est un des fils rouges de l'ouvrage quand même. Ces trois couleurs-là,
oui, ce sont
souvent associées.
Ce sont trois couleurs qui, longtemps, dans les époques très anciennes, ont eu le pas sur toutes les autres. Non pas que les autres n'aient pas existé, mais dans les sociétés antiques et encore celles du haut Moyen-Âge, il n'y a qu'à lire les Pères de l'Église et en amont la Bible, on voit bien que blanc, rouge et noir sont des couleurs plus importantes que vert, jaune et bleu. Et donc il y a une triade comme ça, donnée, qu'on rencontre d'ailleurs dans d'autres sociétés que les sociétés occidentales, qui est une triade première avant que les autres couleurs accèdent au statut de couleur à part entière. C'est ce qui va se passer au cœur du Moyen-Âge avec la promotion du bleu, mais aussi du jaune et du vert. Et l'Occident va passer de trois couleurs de base, rouge, blanc, noir, à six couleurs de base, rouge, blanc, noir, vert, jaune, bleu. Et on vit encore là-dessus aujourd'hui. Il y a six couleurs de base dans nos sociétés. D'ailleurs, quand on demande aux enfants de nommer des couleurs, ils nomment ces couleurs-là. Ensuite, ils commencent à hésiter pour les couleurs du deuxième rang, en quelque sorte, aujourd'hui. Le violet, le gris, l'orangé, le rose et le brun. Et ensuite, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que des nuances et des nuances de nuances. Mais ce ne sont pas des couleurs. Donc, il y a cette primauté de la triade blanc-rouge-noir, qui a d'ailleurs une force expressionniste très très en avance sur toutes les autres couleurs. Certains cinémas expressionnistes, ou le régime nazi par exemple, s'il n'est pas trompé, qui fait ses mises en scène dans la gamme blanc-rouge-noir pour impressionner les foules, ça vient de très très loin. Urfarben, comme dit la langue allemande.
Dans le destin du rouge, on a évoqué dans son relatif déclin le rôle joué par le protestantisme et plus spécifiquement le calvinisme, et puis une certaine forme de pudibonderie ou de volonté d'austérité. Il y a aussi un autre coup très rude qui lui était porté, c'est celui qui lui était porté par la science lorsqu'on découvre que le spectre des couleurs ne le place plus au centre de couleurs premières, il devient quelque chose qui rejetait aux marges. Expliquez-nous ça.
Oui, un autre tournant essentiel dans l'histoire des couleurs, c'est la découverte du spectre par Newton, le jeune Newton, en 1666. l'un des plus grands hommes de science de tous les temps, qui la même semaine découvre le spectre et la gravitation universelle. Pour l'histoire des sciences, ça fait beaucoup. Et en découvrant le spectre, en décomposant la lumière du soleil, en la faisant passer à travers un prisme de verre et en découvrant 7 rayons lumineux, d'abord 6 puis 7, Newton met sur le devant de la scène savante un nouvel ordre des couleurs qui est tout à fait contraire à ce qu'on utilisait précédemment pour classer les couleurs, l'ordre aristotélicien, quand on plaçait les couleurs sur un axe. C'était entre le blanc et le noir, qui étaient des couleurs à part entière. Au milieu de l'axe, il y avait le rouge, couleur vedette. Les jaunes étaient du côté des blancs, les verts et les bleus du côté des noirs. Donc on avait un axe blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Quand Newton découvre le spectre, il met en avant un ordre des couleurs nouveau au sein duquel il n'y a plus de place, ni pour le noir, ni pour le blanc. Ce ne sont plus des couleurs. Et le rouge n'est plus au centre, il est sur les marges. L'ordre nouveau, c'est violet, bleu, vert, jaune, orangé, rouge. Ça n'a aucun rapport avec l'ordre d'Aristote. Et quand on est historien comme moi du Moyen-Âge, évidemment, il faut laisser le spectre de côté. Ça ne nous apprend absolument rien. Il faut étudier les couleurs du Moyen-Âge par rapport à l'axe aristotélicien des couleurs. Sinon, on dit d'énormes bêtises. Mais donc, ce nouvel ordre des couleurs newtonien va devenir l'ordre scientifique de base. Il l'est encore aujourd'hui pour la chimie et pour la physique. Ça a mis un certain temps parce que Newton a d'abord caché sa découverte. Ensuite, il l'a publié en anglais. Donc, ça n'a eu aucun écho dans l'Europe savante. Il a fallu qu'au début du XVIIIe siècle, il traduise son grand livre d'optique en latin. Pour qu'il soit reçu, c'est un beau document quand même, de savoir que le latin est beaucoup plus répandu que l'anglais au début du XVIIIe siècle. Et peu à peu, dans le courant du siècle des Lumières, les idées de Newton gagnent du terrain. C'est la mode de tous les nuanciers, à la fois savants, mais aussi dans la vie quotidienne. Le XVIIIe siècle aime énormément les couleurs. Et donc, peu à peu, ce spectre va organiser l'univers des couleurs de l'homme européen, puis de la planète entière. Et le rouge n'est plus au centre, c'est devenu une couleur de marge, ce que la société faisait déjà un peu. Hein. Comme toujours, la science vient en dernier confirmer ce que les pratiques sociales faisaient parfois depuis longtemps. L'historien en fait l'expérience pour de nombreux domaines et à toutes les époques. La science vient confirmer ce que soit les pratiques sociales, soit l'imaginaire et la symbolique faisaient déjà depuis un certain temps.
Ça nous ouvre des abîmes de perplexité, hein, ce que vous nous dites là. Comme si la science venait au secours des préjugés sociaux. C'est étonnant, on a plutôt la...
Non, mais la science n'a aucune priorité sur tout le reste et souvent elle ne fait que confirmer ou infirmer d'autres choses. Quelquefois elle est en avance, par exemple au XVIIIe siècle, puisque nous sommes arrivés au XVIIIe siècle, le bleu devient une couleur très à la mode, très aimée, très recherchée, parce que les teinturiers d'un côté et les peintres de l'autre bénéficient de progrès matériels et techniques dans la gamme des bleus, avec l'importation de l'indigo américain pour la teinture et la découverte accidentelle du bleu de Prusse pour la peinture. Ça contribue à diversifier grandement la gamme des bleus. Et donc là, la technique est en avance sur le goût. Mais au XIIIe siècle, quand le bleu devient une couleur à la mode, il n'y a pas un progrès de la teinturerie ou de la technique. Il y a une demande de la société dans la gamme des bleus et les teinturiers qui techniquement étaient incapables de faire des beaux bleus pendant des millénaires, en 3 générations le font parce que la société le leur demande.
Donc, puisque nous en sommes au 18e, à l'expression d'une demande sociale, voire même aux turbulences qui peuvent agiter la société, à la fin du 18e, il se passe un événement qui sera extrêmement important pour la destinée de la couleur rouge, c'est bien sûr la révolution. Le rouge, c'est aujourd'hui encore dans l'imaginaire collectif, la couleur de la révolution.
Voilà, c'est la naissance du rouge politique, avec même un acte de naissance extrêmement précis, la fameuse journée du champ de Mars, le 17 juillet 1791. Louis XVI vient d'être arrêté dans sa fuite à Varennes, ramené à Paris, et sur le champ de Mars, on a installé des registres où la foule vient signer pour demander la démission du roi. il y a beaucoup de monde, trop de monde, et on fait ce qu'on a fait pendant une bonne partie de l'Ancien Régime. On sort le drapeau rouge, qui est un drapeau pacifique, qui invite la foule à se disperser. Il y a danger, et le drapeau rouge prévient d'un danger. C'est ce qui se passe. Le maire de Paris, Bailly, fait sortir le drapeau rouge, et on ne sait pas trop pourquoi. La garde nationale a tiré sur la foule, malgré le drapeau rouge. Il y a eu des morts, les premiers martyrs du rouge, en quelque sorte. Et en une journée, ce drapeau pacifique devient un drapeau insurrectionnel, celui de la Révolution en marche. Il va s'associer au bonnet rouge et devenir la couleur des partis progressistes, puis insurrectionnels et révolutionnaires, les mouvements socialistes et apparentés au XIXe siècle, les partis et affidés communistes au XXe siècle, la Russie d'abord, la Chine ensuite, bref, tout ce que l'on sait autour de ce rouge politique qui aboutit presque à une confiscation de la couleur par une sorte d'idéologie, en quelque sorte, politique. Quand j'étais adolescent encore, si on disait « j'aime le rouge », tout de suite on était taxé de communiste, alors qu'on pouvait aimer le rouge pour de toute autre raison.
On peut aimer le rouge sans être un rouge.
Voilà, exactement. On disait un rouge, c'était passé dans les faits de langue, dans toutes les langues de l'Europe occidentale, c'était la même chose. J'ai vu, moi, quand j'avais 20 ans, dans les manifestations de rue de mai 68, une époque où mon sens politique était très, très rudimentaire, mais j'ai quand même vu ce grand fait chromatique et politique dans les manifestations, le drapeau rouge de l'extrême-gauche débordé sur sa propre gauche par le drapeau noir des anarchistes. Je ne comprenais pas l'aspect politique de la chose, mais je voyais bien l'aspect chromatique, et ça me réjouissait beaucoup. Donc ce rouge a trouvé plus à gauche que lui, puis aujourd'hui ça s'est un peu atténué. C'est plutôt dans la gamme des verts d'ailleurs qu'on trouve la même idée, confiscation d'une couleur par un mouvement, des partis, une idéologie. Si on dit aujourd'hui « j'aime le vert », on est tout de suite qualifié d'écologiste. Je n'ai absolument rien contre l'écologie, mais on peut aimer le vert pour d'autres raisons.
Et le rouge aujourd'hui, au-delà du politique, persiste quand même.
Oui, le rouge présente cette particularité d'être devenu discret dans notre vie quotidienne en Occident. Dans le spectacle de la rue, on voit du rouge, bien sûr, un peu sur les vêtements, pas beaucoup, quelques carrosseries de voitures, mais surtout des panneaux, des signaux qui attirent l'attention, signalent un danger, interdisent ceci ou cela, comme sur les feux tricolores, interdiction de passer. Dans nos appartements, il y a du rouge, mais il n'y en a pas beaucoup. Ce sont toujours des accents, des petites touches. Donc le rouge, sans disparaître, bien sûr, est devenu plus discret qu'il ne l'était dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Je crois que le décrochement se fait vraiment avec la réforme protestante, puis la contre-réforme catholique qui reprend une partie des valeurs de la réforme protestante. Donc le rouge est en recul, notamment par rapport au bleu, par rapport au blanc, par rapport au noir, par rapport au gris même, dans la vie quotidienne, mais il reste la première couleur sur le plan symbolique, la couleur la plus forte, la plus riche de signification. Peut-être justement, cette discrétion accentue encore sa dimension symbolique, alors qu'il n'est pas la couleur préférée dans les enquêtes d'opinion, et on en a depuis la fin du XIXe siècle. Et ce qui est fascinant pour l'historien, c'est que les résultats sont toujours les mêmes depuis la fin du XIXe siècle, malgré l'apparition de l'électricité, malgré les changements de société, les nouvelles matières, les nouvelles lumières, etc. C'est toujours le bleu qui est la couleur préférée, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, à peu près la moitié de la population d'Occident, devant le vert, et le rouge ne vient qu'en troisième position, entre 12 et 15%. Des hommes et des femmes ont le rouge pour couleur préférée, alors qu'on est entre 45 et 50% pour le bleu. Ce qui fait que quand on dit « j'aime le bleu », on ne dit pas grand-chose de soi-même, tellement c'est banal, c'est presque neutre. Rouge, ça reste quelque chose de fort.
Ultime question, pour clore. Est-ce que ce recul relatif du rouge dans le cœur de nos contemporains ne vient pas justement de sa nature ? On l'a dit, il est lié à l'autorité, éventuellement à la révolution, à des choses qui sont dures. Quand vous citez le rouge aujourd'hui, sens interdit, peut-être l'avis des magistrats, toujours dans le registre de l'autorité, éventuellement les corrections des copies d'écoliers qui se font ou se faisaient, j'ai appris que ça allait changer.
Oui, les recommandations ministérielles recommandent de corriger en vert. Le rouge fait peur aux enfants, le vert c'est l'espérance d'un devoir meilleur la prochaine fois, quelque chose comme ça. Donc en effet, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent en rouge, ou sinon mauvaises, du moins quelque peu inquiétantes. L'autorité, la justice, le crime, la violence, la correction, la punition, ça fait beaucoup et peut-être entraîne une certaine méfiance envers le rouge, mais qui garde sa signification associée à la beauté, à la féminité, à l'amour, à la fête, au plaisir, à la joie. Le mauvais rouge n'a pas complètement disparu, il s'est un peu atténué.
Et puis le bon vin rouge.
Alors il y a aussi le bon vin rouge.
Le seul vrai vin, le vin rouge.
Oui, qui n'est pas rouge, hein, de même que le vin blanc n'est absolument pas blanc, que le raisin noir n'est pas noir et le raisin blanc encore moins, ce qui montre bien que les termes des couleurs, de couleurs sont des étiquettes et que l'écart est grand entre la couleur réelle des êtres et des choses, la couleur nommée ou représentée, et parfois la couleur perçue. L'historien doit faire avec ces trois pôles, ça n'est pas toujours simple.
Et c'est pourquoi, en lisant votre ouvrage, Michel Pastoureau, lorsqu'on va à la rencontre de l'histoire d'une couleur, en réalité, on va à la rencontre de l'histoire de nous-mêmes, de nos sociétés, et peut-être de la multitude des sentiments humains et de toutes leurs couleurs.
Oui, je donne toujours priorité dans mes recherches, dans mes travaux, à l'histoire sociale et je dis toujours à mes étudiants ce qui fait que la couleur est la couleur, c'est d'abord la société. Ça n'est pas la nature, ça n'est pas le couple œil-cerveau, c'est d'abord la société et l'historien doit toujours commencer par l'histoire sociale des couleurs.
Merci beaucoup et nous invitons nos lecteurs justement à se réchauffer les neurones, l'esprit et peut-être les sens en parcourant votre ouvrage richement illustré d'ailleurs, Histoire d'une couleur rouge par Michel Pastoureau, tout aussi passionnant que ceux qui l'ont précédé, consacré dans l'ordre au bleu, au noir et au vert dont nous avions parlé précédemment. Il faut tous les acquérir et les mettre en regard car ils se répondent l'un l'autre. Je répète donc, Histoire d'une couleur rouge par Michel Pastoureau, à acquérir de toute urgence pour un beau voyage plein de couleurs au pluriel. Merci beaucoup Michel Pastoureau.
Merci à vous. Thank you.